Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors, c'est pour bientôt vous propose un nouvel épisode et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ses galères, ses questionnements, ses découvertes et qui contribue ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Mon invitée du jour, je l'ai découverte dans la sphère Instagram PMA. Elle fait partie de ces personnes qui ont décidé de rire sans pour autant renier les souffrances que peuvent engendrer un parcours de PMA. Mon invitée est Tata, elle nous parle depuis le sud de la France et fait des vidéos. Gracie ou Tata Gracie sur les réseaux sociaux est donc venue se confier à mon micro pour me raconter son parcours pour devenir maman une première fois, puis pour agrandir sa famille avec François, son mari. Elle me raconte l'ascenseur émotionnel qu'elle et son mari ont vécu à l'annonce d'un mauvais diagnostic. Elle me raconte ses 10 transferts, mais aussi et surtout sa résilience et sa philosophie de vie. En effet, chaque pause que la PMA lui impose est pour Gracie une opportunité de s'écouter et de prendre soin d'elle. J'ai trouvé qu'il était intéressant de partager cet épisode avec vous pendant le confinement justement. Car je sais combien l'attente peut être pesante en général, mais ce confinement est encore plus différent. Bref, sans plus attendre, voici ma rencontre avec Gracie. Bonne écoute. Bonjour Gracie.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien. En confinement en ce moment, mais ça va bien. Du coup, j'en profite pour me reposer. C'est bien.
Alors, merci infiniment d'accepter de participer à ce podcast aujourd'hui. D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui?
Moi, j'habite dans le sud de la France, j'habite dans le Var, dans une petite commune qui s'appelle Montauroux, qui est pas très loin du 06 finalement, on n'est pas loin des Alpes-Maritimes. Donc tout en bas de la France, au soleil. J'ai une maison qui est plutôt agréable avec un jardin. Il y a pire comme confinement. Pourrait y avoir une petite studette sous les toits à Paris. Pour certains, c'est ça, les pauvres. Moi, ça va, j'ai pas à me plaindre.
Alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu donc qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as et puis à quoi ressemble un peu ta famille?
Alors, j'ai 37 ans, je vais sur mes 38 en novembre. J'ai un mari adorable qui s'appelle François, j'ai une belle fille, donc mon mari a une fille d'un premier mariage qui a 17 ans, elle s'appelle Paola. Moi, j'ai un petit garçon d'un premier mariage aussi qui s'appelle Zadig qui a 10 ans. On est mariés, François et moi, depuis 2017, juin 2017. On habite ensemble, on s'est mis ensemble. Ça fait 6 ans, on a très très vite emménagé ensemble, ça s'est tout de suite enchaîné. Et au niveau professionnel, moi j'ai une société de pose et réparation de menuiserie extérieure. En gros, on travaille avec les assurances, c'est-à-dire qu'en général, on passe après les effractions et les cambriolages pour mettre les gens en sécurité et par la suite réparer ou remplacer la menuiserie qui a été endommagée lors du cambriolage. Ça, c'est mon métier depuis 4 ans. Mm-hmm. C'est une société familiale et c'est un truc que j'adore faire parce que je travaille pour moi. Donc, c'est super. Alors, c'est beaucoup de soucis, mais j'adore ça. Oh. J'aime être à la tête d'une société, ça me plaît.
Bah, super. C'est vrai que c'est toute une aventure encore en soi-même. Alors, en parallèle de ça, donc nous, on s'est rencontrés sur Instagram. Est-ce que tu peux me raconter un peu qu'est-ce que tu fabriques sur Instagram?
Je fais des vidéos drôles. Moi, je les trouve drôles. Après,
moi aussi.
L'humour, c'est subjectif. Les goûts, les couleurs, voilà. Bon, je fais des vidéos d'humour sur un sujet en particulier. Alors, sur plein de sujets, mais un sujet en particulier, donc qui est le sujet de la PMA, puisque je suis dans la boucle depuis presque 5 ans. On va dire que j'ai de la bouteille, on va dire que j'ai de l'expérience dans le domaine, je maîtrise plutôt pas mal mon sujet. Comme j'ai toujours eu tendance à tourner les choses en dérision, faire rire de choses qui sont parfois pas drôles, voire assez noire. Voilà, ma mère m'a poussée à faire des vidéos là-dessus parce que quand je lui racontais notre parcours, je lui racontais de la même manière que je le raconte dans les vidéos, avec les mêmes mots crus et grossiers, parce que, soyons honnêtes, quand on raconte ce parcours-là à ses proches, c'est quand même fatigant d'employer des mots médicaux sans arrêt, d'employer le mot testicule. Personnellement, ça me fatigue. Déjà, il y a trop de syllabes. Je préfère raccourcir un peu et que ce soit un petit peu plus visuel. Voilà. Ouais. Donc, je me suis lancée dans ces vidéos pour me faire du bien, pour extérioriser, parce que je n'avais pas tendance à forcément en parler, sauf si on me posait des questions. Et puis, je me suis rendu compte surtout que ça a fait énormément de bien aux filles qui étaient en PMA. J'ai surtout découvert qu'il y avait énormément, énormément de filles et de couples. Hein. Je vais dire des filles beaucoup, faut pas m'en vouloir. C'est que il y a beaucoup plus de filles sur Instagram que de garçons. Ça, ouais, c'est bien sûr. Au niveau des statistiques, c'est la base. Et puis, les filles vont avoir plus besoin de communiquer de leur infertilité entre elles. Les garçons, les hommes, beaucoup moins. Parce qu'il y a cette notion de virilité qui s'échappe avec l'infertilité. En fait, les hommes vont souvent associer leur infertilité à un manque de virilité, ce qui est totalement faux. Et donc, vont avoir beaucoup plus de problèmes à en parler, beaucoup plus de réserves, parce qu'ils ont peur du jugement, ce que je comprends tout à fait. Et donc, les femmes sont plus dans la discussion, dans l'échange. Et je me suis rendu compte que au fur et à mesure que je postais des vidéos, j'avais de plus en plus d'abonnés. Et tous ces comptes avaient donc une propriétaire, mais cette propriétaire avait un autre compte. Voilà. Donc, elle avait monté son compte officiel, entre guillemets, pour sa famille, ses copains, son entourage, et un compte plus caché. En général, le titre des comptes inclut PMA ou FIV ou FIVette. Il y a toujours un mot qui va rappeler que cette fille est en parcours. Donc elle jongle avec leurs deux comptes. Et je me suis rendu compte que les abonnements tombaient très rapidement. De jour en jour, j'avais de plus en plus d'abonnés et surtout, plein de filles qui étaient isolées dans leur coin. Donc, ça permet de rassembler un petit peu. Ce compte-là, finalement, il apaise les couples, mais il rassemble aussi énormément parce que ça permet aux couples de se rencontrer. Les filles, elles se rencontrent sur Instagram. On fait beaucoup de rencontres sur Instagram. Chacun pense ce qu'il veut d'Instagram. Moi, je trouve que le premier avantage de ce réseau social, c'est les rencontres qu'on y fait. Et donc, ça, c'est un terrain où on peut discuter de PMA sans que ce soit de façon triste, comme il peut y avoir sur les forums. Moi, ce que je reproche aux forums, c'est déjà, les filles, quand elles sont plus concernées, elles n'y vont plus parce que ça leur rappelle des choses qui sont difficiles à vivre, qui sont difficiles à supporter. Et puis, on est vraiment dans le négatif dans les forums, beaucoup. Avec mes vidéos, je voulais une touche de légèreté, quelque chose qui puisse rassembler les filles en PMA et surtout qu'elles puissent se reconnaître dedans et se dire « mais en fait, je suis pas folle, je suis pas la seule à avoir fait 150 tests de grossesse, je suis pas la seule à avoir été le chercher dans la poubelle une fois que je l'ai fait pour voir si la ligne elle a pas apparu entre temps ». C'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on se reconnaît entre nous. Ouais. Voilà. Et ces petits signes distinctifs, on a honte. On a honte de le dire à sa mère ou à sa meilleure amie qu'on fait tous les mois des tests de grossesse parce que la première réaction qu'elles vont avoir, mais ça arrête. Arrête, tu te fais du mal à faire ça. Mais elles savent pas ce qu'on vit, nous. On n'est pas toutes dans ce cas-là. Mais la majorité, oui, on a hâte de savoir pour pouvoir passer à autre chose parce qu'on s'attend souvent à un négatif aussi. C'est que 4 jours d'attente, c'est 4 jours de trop. Donc, si on peut réduire l'attente de 3-4 jours, on va la réduire pas pour avoir hâte d'avoir notre positif, mais peut-être même plus pour avoir hâte que ce soit fini, que l'attente se termine. Ouais. Peu importe le résultat. Enfin, moi, je le pense comme ça pour ma part. Mmh. Je préfère savoir que c'est non au bout de 11 jours plutôt qu'au bout de 16. Si j'ai la possibilité de savoir que c'est non, eh ben, je préfère le savoir avant. Je pense que la torture au niveau cérébral est beaucoup moins intense si on coupe le robinet plus tôt, quoi. Donc ce compte, il a été créé pour ça, pour rassembler les filles, pour aussi qu'elles se rendent compte qu'elles sont pas folles et que si elles sont folles, dis donc, on est nombreuses, hein. C'est que finalement, on l'est pas tant que ça et que nos réactions sont humaines. Voilà, ce qu'on vit, c'est pas facile. Et ben, de se dire qu'on n'est pas seul, ça aide. C'est un petit coup de pouce, quoi.
Ouais, c'est ouais. Un grand coup de pouce même, c'est clair. C'est une super initiative. Moi, j'ai adoré regarder et partager tes vidéos et je mettrai d'ailleurs le lien vers ton compte dans les notes du podcast. Alors justement, donc tu parles de PMA et tu parles aussi de ton parcours. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc, tu m'as dit que tu avais déjà un petit garçon. Est-ce que c'est, enfin, comment est-ce que cette grossesse est arrivée déjà, cette première grossesse ?
Alors moi, j'ai jamais eu de problème de fertilité. Au contraire, donc j'ai eu deux avortements. J'ai pas honte de le dire, je le dis parce que on a tendance à pas assez prévenir les jeunes filles que l'avortement c'est pas un moyen de contraception et qu'il y a des conséquences derrière sur leur fertilité. Donc je pense pas que mon infertilité vienne de là, mais je préfère quand même le noter que voilà, faut pas abuser des avortements. Donc moi j'ai subi deux avortements avant d'avoir mon fils et quand j'ai décidé de faire mon fils avec mon ex-mari, je m'étais dit bah je vais arrêter la pilule quelques mois avant le réel top départ des essais, on va dire, histoire que mon corps se remette en place et que l'ovulation se refasse de manière correcte et fluide. Bah deux semaines après, j'étais enceinte. Et sur un très très gros week-end, parce que c'était le week-end de mon enterrement de vie de jeune fille, donc j'ai très peu dormi, j'ai beaucoup baroudé, je suis beaucoup sortie, j'ai bu pas mal d'alcool, j'ai fumé énormément, puisque bon, alcool, clope, ça va ensemble, et j'ai pas du tout fait attention ni à moi, ni à ce que je faisais, ni au, enfin j'avais pas ça en tête, donc je suis rentrée de cet enterrement de vie de jeune fille, 15 jours après j'apprenais que j'étais enceinte. Voilà. Donc, mon fils a grandi, je me suis séparée entre-temps, et le désir d'enfant est très vite revenu avec François. On s'est mis ensemble en mars 2014, et on a commencé à essayer août-septembre 2015. Donc, au bout d'un an et demi, même pas. On a essayé naturellement, et puis au bout de 6 mois, rien n'arrivait, et moi ayant quand même mon expérience de femme plutôt fertile, je me suis dit tout de suite qu'il y avait un problème, en fait. Donc, je suis allée consulter mon gynécologue qui m'a conseillé de faire un spermogramme à mon mari parce que il avait eu une opération quand il était enfant. Il avait une hernie au niveau des testicules, donc du coup il fallait lui l'opérer. Et c'est lors de l'interrogatoire, enfin du questionnaire du médecin, que quand je lui ai dit qu'effectivement il avait eu cette petite opération, il nous a redirigé tout de suite vers un spermogramme.
D'accord. Donc ils ont fait aucun nouveau test chez toi ?
Non, rien du tout.
D'accord.
Rien du tout, 32 ans, 3 grossesses, un accouchement. Pour eux, le problème ne venait pas de moi. J'étais tout de suite écartée d'une infertilité. Donc, on a effectué ce spermogramme. Là, on n'a pas compris. On s'est retrouvés avec un résultat. Il n'y avait pas de chiffres. Donc, moi, quand je suis allée chercher les résultats, François m'attendait dehors. Non, il était en train d'attendre, il tirait de l'argent dehors. Donc, je suis rentrée seule dans le labo et j'étais seule face aux résultats. Donc, comme je voyais des pourcentages, mais pas de chiffres dedans, j'ai cru qu'il y avait une erreur. Et j'ai demandé à la dame du labo, enfin, à la secrétaire, je lui ai demandé de bien vouloir me donner le reste des résultats parce que, il manquait les chiffres. Et elle m'a regardée et m'a dit, il n'y en a pas. J'ai dit, oui, mais madame, j'ai bien compris qu'il n'y a pas de chiffres. C'est bien ce que je vous dis. Elle m'a dit, non, mais il n'y en a pas, il n'y a pas de spermatozoïde, madame. Voilà, là, ça a été dur. Mon mari est rentré à ce moment-là. Je l'ai regardé. Il me dit alors. Je lui dis va falloir qu'on parle. La première chose à laquelle on a pensé, évidemment, c'est est-ce que sa fille est sa fille ? Évidemment, puisqu'il avait une fille de 17 ans. Et enfin, pas 17 ans à l'époque, elle avait 14 ans, mais enfin quand même, ça nous a traversé l'esprit. Donc, à l'issue de ce premier spermogramme, pas de spermatozoïde, on nous a prescrit un deuxième au bout de 15 jours. Il l'a fait. Et là, il y avait 10 spermatozoïdes, dont 9 morts et un qui sautait sur place. Donc, rien à faire. Même pas une FIVICSI. Parce que pour obtenir une FIVICSI, il faut quand même avoir des spermatozoïdes sains. Même s'il y en a que 3 ou 4, s'ils sont de bonne forme et qu'ils sont de bonne vitalité, on peut s'en servir. Or, là, il n'y en avait pas. On nous a redirigé tout de suite vers un centre de PMA, évidemment, puisque là, ça se compliquait vraiment. On nous a reçus de manière assez mécanique, malheureusement, on a été assez mal reçus. On nous a quand même prescrit un troisième spermogramme. Le médecin a dit, moi, je me base sur 3 spermogrammes. 2, ça me suffit pas. Eh bien, le troisième, il y avait 14 millions. Alors,
ah bon ?
Pourquoi ? On n'a jamais su. Oui, c'est une histoire de dingue. Oui, on n'a jamais su pourquoi. Il a eu une fièvre, mais pas très forte, quelques mois avant. Il a eu un petit souci de santé très bénin où il a passé 24 heures à l'hôpital et il lui avait donné une batterie de médicaments. Donc, on s'est dit peut-être que dans le traitement qu'il a reçu, il y a eu quelque chose qui lui a tué ses spermatozoïdes, tout simplement. Ouais. Et en fait, on ne sait pas. Les médecins n'ont jamais su nous répondre. Vraiment, on a jamais eu de réponse. Bon, c'est pas bien grave, c'est le résultat qui compte. Et donc, on est parti. Et puis, alors, 14 millions de spermatozoïdes. Et au fur et à mesure qu'on faisait des spermogrammes, ça remontait jusqu'à 160 millions et quelques, avec une vitalité tout à fait normale, une mobilité tout à fait normale. Donc là, on s'est dit, allez, c'est parti. Donc, on est passé d'abord par des inséminations. On en a fait trois. Okay. Trois qui n'ont pas fonctionné du tout. Il n'y a pas eu d'accroche, rien. Donc, on est passé en FIV. Toujours dans le même centre. Le problème, c'est que c'était un centre qui n'était pas très, très bien classé. Il n'avait pas poursuivi, on va dire, les investigations. On a fait une première FIV qui a été plutôt un coup dans l'eau parce que, bon, on a obtenu quand même 9 embryons. Il n'y a eu qu'une accroche qui a duré 3 jours. Il a fallu quand même se poser les bonnes questions. On a décidé de changer de centre sur les conseils d'un couple d'amis infertiles aussi, qui était suivi par une gynécologue qui était très, très, très calée. C'est un ponte dans son domaine. Et effectivement, quand je me suis renseignée, le centre était classé 8e en France, alors que le précédent était classé 88e. Donc, je me suis dit, effectivement, on va peut-être aller vers quelque chose de plus positif, quoi.
Du coup, en fait, on vous a quand même lancé dans un protocole, sachant que tout allait bien, en fait, chez l'un comme chez l'autre.
Oui, finalement. Oui, on est quand même rentré en protocole parce que moi, j'ai quand même une réserve, enfin, j'ai une AMH qui était pas mirobolante. Donc, l'AMH, c'est l'hormone antimullérienne. C'est un marqueur qui donne une idée sur la réserve ovarienne. Donc, cet examen, c'est une prise de sang qu'on passe au troisième jour du cycle et qui est combinée avec une échographie endovaginale. Et pendant cette échographie, on compte les follicules en trop, c'est-à-dire que ce sont les follicules qui sont censés rester dans les ovaires et donner des ovules au fur et à mesure que les mois vont passer. Donc, on compte les follicules en trop, on associe ça au résultat d'AMH et on peut à peu près estimer une réserve ovarienne. La mienne n'était pas top, donc ils n'ont pas voulu perdre trop de temps. Après, c'était pas inquiétant, mais ils voulaient pas non plus qu'on perde trop de temps, donc on a enchaîné tout de suite sur une FIV, parce que après trois inséminations qui n'ont pas fonctionné, ils se sont dit, là, on va les aider un petit peu. On a obtenu nos 9 embryons, il y en a eu qu'un qui s'est accroché, qui est parti au bout de 3-4 jours. C'était vraiment la grossesse biochimique dans toute sa splendeur. Je suis montée à 210 unités d'HCG. Je suis redescendue à 80 le lendemain. Donc, ça a été vraiment très rapide. On a tenté les derniers transferts ensuite. Parce que oui, c'était mon premier transfert. Donc, je me suis dit, le premier, il y a une accroche, ça va aller. Il m'en reste 8 autres, ça va le faire. Les huit autres n'ont rien donné. Donc, c'est là que nous avons donc changé de centre et la gynéco qui a pris notre dossier nous a expliqué que il y avait un problème, que c'est pas normal. Et donc, elle a voulu pousser les investigations au niveau du sperme de mon mari parce que elle trouvait quand même que les embryons n'étaient pas de top qualité. Donc, on a fait des examens supplémentaires dont la recherche de la fragmentation de l'ADN du sperme. Et ça, c'est un examen qui est très important parce que ça nous permet de comprendre si le sperme, parce que c'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Si les spermatozoïdes ont un ADN qui est fragmenté, ça va donner des embryons de mauvaise qualité qui vont être eux-mêmes très fragmentés et qui auront un potentiel d'accroche très faible. Donc, le but, c'est de partir de gamètes saines, c'est-à-dire un ovule sain, et un spermatozoïde qui soit le plus sain possible pour donner le plus bel embryon possible. Donc, on est passé du coup en FIVICSI parce qu'effectivement, les résultats n'étaient pas très bons. Ils n'étaient pas catastrophiques, mais ils n'étaient pas bons. Et ça justifiait qu'il n'y ait pas d'accroche. Donc, on a fait on est passé en FIV-IMSI. Donc, la FIV-IMSI, c'est une différence entre l'ICSI. Alors, la différence entre l'ICSI et l'IMSI, c'est que ça reste toujours la même chose. On va micro-injecter un spermatozoïde dans l'ovule. En revanche, on ne va pas se servir du même microscope. Le microscope en IMSI va grossir 200 fois plus que un microscope classique d'une FIV ICSI. Donc l'IMSI D'accord. est très intéressante parce qu'on va zoomer sur la tête du spermatozoïde et pouvoir choisir un spermatozoïde qui a une tête saine et qui n'est pas fragmentée. Voilà. Et c'est ce spermatozoïde-là qui va faire un bel embryon. Le problème, c'est que cette deuxième IMSI a donné que 3 embryons parce qu'entre-temps, il y a 1 an et demi qui s'est écoulé. Et le traitement, ma gynécologue s'était basée sur le traitement précédent que j'avais eu et je n'ai pas répondu de la même manière. Donc, les 3 embryons étaient très beaux, mais il y a eu donc que 2 transferts, 2 embryons de 2 jours qui ont donné une grossesse puis une fausse couche au bout de 5 semaines et un deuxième transfert d'un J5 qui a rien donné. Donc là, j'ai fini ma deuxième FIV.
D'accord.
Et là, évidemment, j'attends une date pour une troisième, mais je pense que j'aurai pas de date pour le moment, au vu de l'actualité sanitaire dans ce moment.
Ouais. Est-ce que toi et François, vous vous êtes fait un petit peu accompagner sur votre parcours d'un point de vue psychologique ?
Jamais.
Non, ni l'un ni l'autre, ni en couple ?
Non, on n'a pas ressenti le besoin. On est quand même bien entourés. On parle pas à tout le monde de notre parcours. Par contre, nos amis proches et nos parents sont au courant. Donc, on a beaucoup de soutien. Ce qui est pas facile, c'est quand tout le monde est derrière nous, tout le monde croise les doigts, et puis quand on doit leur annoncer que ça a pas marché, là, c'est difficile parce qu'on sait qu'on leur fait de la peine aussi. Donc, on porte ça en plus. Mais soutien psychologique, on n'en a jamais eu besoin. On m'a souvent demandé quel est votre secret pour que vous passiez ces épreuves, pour que votre couple passe ces épreuves. Je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est le couple qui va faire que ça va passer. C'est une épreuve qui va être le test pour le couple. Un couple qui passe 1 an de PMA, je pense qu'il peut passer des années de PMA, même si c'est difficile. C'est que ce sont 2 personnes qui sont faites pour passer des épreuves ensemble et qui sont faites pour aller loin dans la vie. Il y a pas de recette miracle. J'ai pas de conseils à donner là-dessus. Il suffit juste d'être avec la bonne personne. Avec mes ex, ça aurait pas fonctionné plus de 2 mois l'histoire. Je pense que c'est juste parce que c'est avec lui que ça fonctionne. Voilà. J'ai pas d'astuces. J'ai pas de conseils à donner.
C'est une belle déclaration d'amour, ça.
Oui.
Et alors, tu dis que vous partagez un petit peu avec vos amis les plus proches, vos parents, vos enfants. Ils sont au courant de votre démarche ?
Oui, complètement. Oui, de A à Z. Parce que moi, je me cache pas pour faire mes injections, déjà, premièrement. Deuxièmement, quand ça commence à faire long, parce que faut se mettre à la place d'un enfant. 5 ans dans la vie de mon fils, il a 10 ans, c'est la moitié de sa vie. C'est-à-dire que ça fait depuis la moitié de sa vie qu'il attend d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Donc, c'est très long pour lui. Je suis obligée de lui expliquer mon parcours pour qu'il comprenne, en fait, pourquoi c'est si long. Voilà. Donc, il est au courant de tout. Ma belle-fille aussi. Ils ont été au courant quand je suis tombée enceinte. Parce qu'ils voient bien que je suis pas la même. Parce que je vais pas boire mon verre de vin le samedi soir. Donc ça, tout de suite, ça leur fait tilt. Voilà, ils me connaissent, ils savent que si je touche pas la cigarette électronique et que je bois pas d'alcool, c'est qu'il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Donc tout de suite, c'est pas la peine de leur mentir, je leur ai tout de suite dit. Et donc ils ont vécu les échecs avec nous. Ça les traumatise pas plus que ça. Moi, je l'ai vécu avec mes parents aussi. Mes parents étaient en PMA pour un deuxième enfant. Ils n'ont jamais réussi à le faire d'ailleurs, donc je suis restée fille unique. Et j'ai vécu les fausses couches avec ma mère, j'étais adolescente. Ça m'a pas traumatisée. J'ai juste compris en fait pourquoi je n'avais pas de petit frère ou de petite sœur. C'est pas qu'elle ne me voulait pas m'en donner, c'est parce qu'elle ne pouvait pas. Et je pense que c'est très important pour l'enfant de lui expliquer. Des fois, on est chargé en hormones, on est fatigué, on se lève tôt pour aller faire nos surveillances. Quand on doit être à 7h30 au centre de PMA qui est à 1 heure de chez nous, c'est beaucoup de trajets, beaucoup de fatigue. Et ça, il faut l'expliquer aux enfants. Qu'ils puissent comprendre pourquoi maman est pas dispo, pourquoi maman est fatiguée. Voilà. Tout ça, je pense qu'il faut sinon ils se font des vélos dans leur tête. Donc il vaut mieux tout leur dire plutôt que de laisser leur imaginaire prendre le dessus.
Comment est-ce que tu as des conseils à donner en fait justement pour prendre soin de toi et de ton mental pendant cette PMA? Donc je comprends bien que ton couple et ta famille sont moteurs aussi dans tout ton parcours, mais toi personnellement, t'arrives à trouver voilà des moments, des astuces un peu pour te chouchouter et voilà et choyer un peu ton corps justement qui passe quand même des moments qui sont pas évidents
qui sont pas
depuis
simples,
quelques années.
Ouais. Alors, c'est différent pour chacune.
Moi, je par exemple, je suis une bonne vivante. J'aime manger, boire, fumer, voilà. Donc la PMA m'a enlevé ça pour les périodes de traitement. Je prends donc chaque pause entre deux FIV ou entre deux examens ou choses comme ça, je la prends comme une chance. Je me dis pas là c'est du temps que je perds, etc. Non, je le prends comme une récréation qu'on m'offre. Et je me permets donc de faire tout ce que je ne peux pas faire habituellement. Donc ça comprend le sport, parce que j'adore le sport. Mais par contre, je ne sais pas faire du sport doux. Je ne sais pas faire de yoga. C'est trop lent pour moi. Je n'aime pas faire de la marche. J'ai vraiment besoin de courir, de faire des choses plus violentes, de faire du vélo. J'ai besoin de, quand je prends mon vélo, je pars pour 40 ou 50 kilomètres. Je vais pas faire le tour du pâté de maison, ça m'ennuie. J'ai besoin d'avoir mal partout. J'ai vraiment besoin de m'épuiser.
Il y a l'effort.
Et voilà, ouais. C'est ça. Cet épuisement m'envoie une dose d'endorphine derrière qui est juste excellente pour le moral, pour surmonter justement toutes les peines qu'on a. Prendre cette dose d'endorphine derrière, ça fait tellement de bien. Donc voilà, en fait, je prends ça comme une récréation imposée et je m'allume une clope quand j'ai envie, je bois un verre de vin quand j'en ai envie et je fais 2, 3 ou 4 heures de sport. Si j'ai envie de partir tout le dimanche matin faire du vélo, je le fais. Je me dis pas, oh là là, j'ai pas le droit, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire du sport de manière intensive. On a le droit au sport, mais enfin, en fait, avec la PMA, c'est assez bizarre parce que tout est permis, mais avec modération. Mais ouais. Moi, je connais pas ce mot-là. Voilà. Je suis quelqu'un qui est assez excessif. Donc, c'est soit tout, soit rien. Et quand je suis en PMA, j'arrête le sport parce que je sais pas faire du sport doux. Je vais arrêter la clope parce que, évidemment, je ne sais pas en fumer qu'une seule. Voilà. On peut conseiller à certaines personnes de réduire la cigarette à une ou deux par jour parce que ce sont des grosses fumeuses. Moi, c'est pas possible. C'est soit je fume, soit je fume pas du tout, quoi. Prendre soin de soi, c'est ça aussi. Ça passe par faire ce qu'on a envie, faire ce qu'on aime. Alors évidemment, toujours avec modération en ce qui concerne l'alcool et la cigarette, mais s'octroyer des petits plaisirs qu'on ne pouvait pas. Et ça, c'est des petites choses qui font du bien. Ouais. Parce qu'on n'est pas enceinte, mais on est considérée comme. Et ça, il n'y a rien de pire.
Ouais.
Savoir une chose, c'est que toutes les femmes enceintes qui postent des images ou des vidéos sur Facebook ou sur Instagram très rigolotes, hein, où elles rêvent de manger des sushis, du pâté, de boire et de fumer. Moi, pour ma part, ça fait 5 ans que c'est comme ça. Ça fait pas 9 mois. Donc, quand on m'octroie 2 mois de récréation, je les prends, mais sans hésiter. Donc, ce confinement, j'ai invité mes abonnés à joyeusement lever le coude, à partager des câlins et des moments de fou rire avec leurs conjoints, de faire l'amour beaucoup, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner pour certaines. Justement, de se dire, je peux pas être en PMA, donc je peux pas être enceinte. On ne sait pas. Voilà, ça tu sais pas. Faire l'amour pendant tout ce confinement sans te dire, c'est peut-être mon ovulation, c'est peut-être... Non. Ne calcule rien, fais-toi plaisir, prends du bon temps avec ton chéri, bois un coup, fume une cigarette si tu étais une fumeuse et que tu as envie de t'en allumer une. Tu te mets sur ton balcon, tu t'allumes une bonne clope. On nous donne la possibilité de le faire pendant ce confinement, faisons-le. Ça sert à rien de se mettre trop de barrières, parce qu'on déjà, on va devenir complètement fou. Et puis, de toute manière, on n'a pas d'injection à faire, on n'a pas d'embryon, on n'a pas d'ovocytes à récolter, donc faisons-nous plaisir.
Saisissons ce confinement comme une opportunité, en fait. T'as bien raison.
Voilà. Ouais.
Ok, très bien. Est-ce que y a un conseil, un truc que t'aurais aimé savoir avant de te lancer, que tu pourrais partager avec la communauté?
J'aurais bien aimé qu'on me prévienne à quel point on allait perdre notre dignité entre guillemets en rentrant dans ces centres de PMA, ce sont des médecins, ce sont de très bons médecins. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce qu'ils ont fait de très longues études. Et ils ont une quantité de savoir qui est incroyable. Par contre, parfois, il manque une dose d'humanité. Ça, je l'ai eu que vers la fin de mon parcours, enfin je suis pas à la fin encore, mais que récemment, c'est-à-dire quand j'ai changé de centre et que je suis tombée sur cette fameuse gynéco qui s'appelle, je vais donner son prénom, elle s'appelle Bettina. C'est une femme qui est très humaine, très à l'écoute et avec qui vous n'êtes pas un numéro. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, ouais. Mais avant, je l'ai pas connu ça. Avant, j'ai connu des médecins qui levaient les yeux au ciel quand on leur disait qu'on fumait ou qu'on buvait le week-end quand on sortait avec des copains, comme si c'était de notre faute. C'est-à-dire qu'il y a eu un sentiment de culpabilité qu'on nous a mis direct sur le dos et on nous a enlevé notre dignité. Parce que quand on arrive avec un spermogramme nul, sans aucun spermatozoïde dedans, on nous a regardé en nous disant « Bon, comment ça pense à l'adoption ?» Mais comme ça, quoi. C'est-à-dire que on ne balance pas ça à des gens qui sont en désir d'enfant. C'est beaucoup trop violent. Et pour que finalement, un mois après, il y ait 14 millions, il aurait mieux fait de se taire, ce monsieur, parce que il nous a vraiment c'est fait clair. Du mal. Donc, il y a eu ça, il y a eu toutes ces questions qui sont intimes, quoi. C'est très intime et c'est fatigant de voir répondre comme ça à une personne qui n'est pas agréable, qui ne met pas dans de bonnes dispositions ses patients. Si on était encore tombé sur quelqu'un qui va être souriant, agréable, doux, gentil, qui nous montre qu'il va prendre le temps avec nous, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on se fait bastonner de questions qui sont toutes plus intrusives les unes que les autres, chaque réponse, on commence à avoir peur d'enchaîner les réponses parce que chaque réponse qu'on donne va donner une espèce de tic facial sur le visage du médecin qui va être apparenté à du jugement. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la cigarette ou l'alcool, le fait d'être quelqu'un de normal, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, eh ben en PMA, tu vas être un alcoolique drogué. Voilà, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à faire d'enfant, c'est parce que tu t'abîmes la santé. Moi, j'ai jamais été une grosse fumeuse. J'ai toujours fumé moins de 5 cigarettes par jour. Mon mari était un peu plus gros fumeur. Mais moi, j'avais pas l'impression d'être dans l'excès. Et je suis sortie de là en me disant, mais en fait, c'est de ma faute. Voilà, si je n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est parce que je fume, parce que je bois. On le sait très bien, n'est pas vrai. On en a des exemples autour de nous, de gens, et je le relate dans mes vidéos. Nous, on va faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on ingère, à ce qu'on boit, etc., etc. Alors que d'autres vont tomber enceintes en ayant fait un Ironman, en ayant bu des litres de rhum, en ayant fumé 3 cartouches de clope, et elles vont mener des grossesses à terme avec de beaux bébés tout roses, tout rond, voilà. Donc, évidemment qu'il vaut mieux mettre toutes les chances de notre côté. Mais c'est amené d'une manière tellement violente que je trouve que c'est pas juste. Ça, c'est vraiment, j'aurais préféré qu'on me prévienne et qu'on me dise, attention, le premier entretien, il est hardcore, quoi. Ouais. Prépare-toi à te prendre au moins une réflexion. Parce que même la personne qui ne boit pas une goutte d'alcool et qui ne fume pas, va être toute fière de dire « Moi, je suis une grande sportive, je fais des treks, je fais des triathlons. » Le médecin va dire « Mais ça va pas ou quoi ? Mais faut arrêter ça. » Donc, de toute manière, même si on a l'impression de faire bien, ça va être quand même mal interprété. Donc, je pense qu'il faut rester soi-même, surtout. Et voilà, faut mettre un casque intégral pour ce premier rendez-vous parce que effectivement, c'est, je crois que c'est le pire des rendez-vous. J'en ai parlé avec beaucoup de filles qui sont en PMA. Je crois que c'est le pire. C'est le pire, c'est le rendez-vous où on pose les choses, voilà. Donc, il y a l'interrogatoire, le fameux interrogatoire. Et à la fin, toutes les consignes qui nous sont données. Alors, faut arrêter ça, faut arrêter ça, faut arrêter ça. Il faut commencer ci, commencer ça, et c'est sans fin. Donc, on nous demande de changer radicalement notre vie du jour au lendemain. Ça, j'étais pas prévenue et je suis tombée des nues quand même. En même temps, c'est difficile d'être prévenu puisque c'est un sujet qui est tabou. Donc, j'aurais très bien pu passer des soirées entières avec des gens qui étaient en PMA sans le savoir. Des amis proches qui sont peut-être en PMA ou qui ont été en PMA, qui ne l'ont jamais dit. Ça, ça arrive beaucoup. Les gens ont honte en général. Moi, j'en ai absolument pas honte. La preuve avec mes vidéos, c'est que, au contraire, je veux qu'on en parle plus. On est quand même un couple sur cinq en France à consulter un centre de PMA pour avoir un enfant. C'est énorme.
Oui, c'est vrai qu'on voit que les chiffres augmentent tous les ans. Non, c'est impressionnant. Et c'est aussi le but de ce podcast, c'est de libérer la parole, que ce soit
bien sûr
que ce soit normal d'en parler. Je prends souvent cet exemple aussi, tu vois, que à l'école en quatrième, troisième, quand on nous apprend la reproduction, bah qu'on nous dise en fait aussi à l'école que parfois ça marche pas naturellement.
Bien sûr.
Que tu vois qu'on puisse savoir un peu ces choses-là et qu'on tombe pas des nues en fait le jour où ça marche pas.
On nous informe aussi, comme je sais pas si tu as vu, il y a une campagne d'information qui est sortie vers le mois de novembre. Ça s'appelle Protège ta fertilité. Est-ce que tu en as entendu parler ?
Non, alors du coup, n'étant pas en France, j'ai peut-être pas vu. Non.
Alors c'est le collectif BAMP qui s'était associé au laboratoire Merck. Merck, c'est ceux qui font pas mal de nos produits qu'on s'injecte.
Ouais.
Et donc, ils ont lancé une campagne d'information auprès des jeunes pour les sensibiliser sur le fait qu'ils doivent protéger leur fertilité. Parce que déjà, on fait des enfants de plus en plus tard. Mais moi, j'ai commencé, par exemple, la cigarette à 16 ans. Si on m'avait dit à 16 ans, parce que j'ai toujours voulu être maman, moi, depuis que je suis très, très jeune. On me disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier ? J'ai dit, moi, je veux être maman. Mais oui, mais c'est pas un métier, mais si. Donc, c'était vraiment un rêve de petite fille. Et si on m'avait dit, Gracie, si tu fumes, tu auras des difficultés à avoir un enfant, je n'aurais jamais fumé. Par contre, on m'a dit, attention, Gracie, si tu fumes, tu vas t'abîmer ta santé. Mais à 16 ans, tu t'en fiches, tu te crois invincible.
Ouais, c'est vrai.
Et puis, tu n'as pas peur pour toi. Donc, tu ne te préserves pas à cet âge-là. Par contre, si on m'avait dit que je serais peut-être privée de la maternité à cause de la cigarette... Là, j'ai réfléchi à deux fois. Alors, j'ai eu mon fils. Je sais ce que c'est que d'être maman. J'ai eu cette chance. Donc, je pense, et c'est ce qui m'aide souvent à passer le cap. Je pense à toutes celles qui n'ont pas d'enfants et qui sont en PMA. Mmh. Je pense à toutes celles qui ont eu des enfants et qui les ont perdus très vite. Par exemple, Flavie de Baby Hope que tu as interviewé. C'était ta première interview.
Ouais.
Voilà. Je me dis que je suis pas à plaindre. J'ai un parcours qui est pas simple. J'ai quand même failli mourir à cause de la PMA lors d'une opération. J'avais fait une hystéroscopie. Donc, à l'issue de ma première FIV qui avait donné une accroche et une fausse couche et 8 embryons transférés sans accroche, la nouvelle gynécologue, Bettina, m'a dit, écoutez, avant de transférer le dernier embryon qui vous reste, moi, j'aimerais quand même qu'on vérifie l'état de votre utérus. Parce qu'on a fait une hystérosalpingographie, mais qui a été mal faite apparemment. Et elle n'arrivait pas à bien interpréter les résultats. Et elle m'a dit, moi, je soupçonne une légère endométriose dans une trompe. Donc déjà, ce serait pas mal de nettoyer tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que elle m'a redirigée vers une gynécologue chirurgienne. Elle m'a opérée, donc par célioscopie. Le problème, c'est que lorsque j'ai eu ma césarienne pour Zadig, pour mon fils, il y a un réseau veineux qui s'est créé entre-temps, puisque les tissus se reforment entre eux, et il y a une artère qui s'est créée, une artère qui n'aurait jamais dû être là. Et donc, quand elle a plongé le trocar pour visualiser l'intérieur de l'utérus, donc je rappelle ce que c'est une célioscopie, on fait 3 trous, un trou à côté de la hanche droite sur le ventre, un trou à côté de la hanche gauche sur le ventre toujours, et un trou dans le nombril. Et on va introduire des instruments, une caméra, déjà pour voir ce qu'on fait. On va gonfler le ventre pour que tout soit bien visible, tous les organes soient bien séparés pour que le médecin puisse bien visualiser l'intérieur. Et avec les autres trous, il va enfoncer donc ce qu'on appelle des trocars. Ce sont des grands bâtons avec au bout les outils, donc les pinces, les choses comme ça qui lui servent à travailler. Sans faire une cicatrice qui ferait presque la taille presque la taille d'une césarienne, parce qu'il faut quand même ouvrir assez largement pour observer l'utérus. Donc le trocar a été plongé dans cette fameuse artère. J'ai été recousue normalement. Le problème, c'est qu'en salle de réveil, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Je me suis dit, je fais une chute de tension, donc j'ai appelé l'anesthésiste. l'anesthésiste est venue me voir, je lui dis bah ça va pas, je suis pas bien, j'ai des sueurs froides, effectivement j'étais toute blanche. Il me dit bah oui, t'as pas l'air bien là. Alors je suis tombée sur un anesthésiste adorable qui arrêtait pas de me faire des blagues. Moi je blaguais énormément aussi puisque j'avais des restes des traitements, donc il m'avait donné ce qu'il fallait pour envoyer de la blague. Et du coup l'anesthésiste me dit, mais je lui dis, je crois que je fais une hémorragie. J'étais aide-soignante avant, donc je connais les signes. Et il m'a dit non, c'est pas possible. Il me dit c'est pas possible en célioscopie. Et au bout de 3 minutes, je le rappelle, je dis ça va pas du tout. Et là, je lève le drap et je vois que mon ventre faisait, en fait, il y avait un dôme sur mon ventre, comme si il y avait un ballon au niveau de la vessie, voilà, tout en bas, un ballon tout dur. Et je ne pouvais pas appuyer avec la pulpe de mon doigt, c'est-à-dire que c'était dur comme du bois. Mm-hmm. Ouais, donc là, j'ai compris que c'était du sang. Donc j'ai rappelé l'anesthésiste, j'ai dit je fais une hémorragie. Il m'a dit ah bon, j'ai levé le drap et il a dit ok. Il a compris tout de suite, donc ils ont fait venir les équipes de réanimation. Ils m'ont mis les paravents. Donc j'étais aide-soignante avant, je sais très bien ce que ça veut dire quand on met les paravents.
Ça veut dire quoi?
Je savais que les minutes étaient comptées. Excuse-moi, j'ai un peu des sanglots dans la voix parce que à chaque fois que je reparle de ça, c'est assez traumatisant. Mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas d'en parler.
Ouais, prends ton temps.
Donc je leur ai demandé de faire ce qu'il fallait parce que j'avais un enfant. J'avais pas peur de mourir, j'avais peur de laisser mon fils en fait. Donc ils m'ont ramené au bloc en urgence. Ils ont rappelé la gynéco qui était en voiture, elle a fait demi-tour, elle s'est préparée, elle m'a ouvert le ventre en césarienne et ils m'ont retiré un peu plus de 2 litres de sang. Donc une femme normalement constituée, elle a entre 4 et 5 litres de sang. J'ai perdu la moitié de ma masse sanguine en une heure. Logiquement, mes organes, ils auraient dû lâcher. Je devrais pas être là pour te parler en fait, parce que on dit que une perte de sang aussi rapide, ça amène à l'arrêt des organes en cascade. Les organes sont plus alimentés, c'est mort. Bon, moi je sais pas comment ça s'est. J'ai pas été transfusée. Elle n'a pas voulu me transfuser parce que j'étais donc elle connaissait mon parcours. Elle m'a dit je ne vous transfuse pas, je ne vous ai pas transfusée. Parce que je sais que vous êtes en essai bébé et que si je vous transfuse, vous pouvez pas essayer pendant un an.
Ah, oui. D'accord, je savais pas.
Parce que le sang du donneur peut rejeter mon embryon. Mmh. Voilà. Donc il y a une histoire de rejet en fait. Donc c'est pour ça qu'elle m'a dit ça va être très long la convalescence. Faut compter 1 mois et demi. Mais je prends j'ai pris la décision de pas vous transfuser parce que je sais que vous avez envie de faire un bébé. Donc j'ai pas été transfusée, j'ai eu des plaquettes, j'ai eu des transferts de fer, et ce sont c'est ma moelle épinière qui a travaillé et qui a refabriqué du sang petit à petit. Donc moi je suis restée 4 jours en réanimation, et après ils m'ont transférée en chambre. Je suis restée 1 jour en chambre et après je suis rentrée chez moi. Je pouvais pas marcher, je pouvais pas me laver, enfin pire qu'une césarienne parce que ils ont dû me sortir tous les organes pour nettoyer, aspirer tout le sang qui était parti dans le ventre en fait. J'avais du sang jusque dans les reins. Tout avait coulé partout. J'ai eu peur. Là, j'ai eu peur. J'ai eu très, très peur. Ouais. Mais bon, voilà. C'est un des déclics qui a fait que je me suis aussi lancée dans les vidéos. Parce que avant ça, il y avait la peur du quand dira-t-on. Après ça, on s'en fout, du quand dira-t-on, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai failli crever. On n'a qu'une vie. Je vais quand même pas m'empêcher, de faire ce que j'ai envie de faire. Juste par peur de ce que vont penser les autres. Donc, je me suis lancée, je l'ai fait, et finalement, je regrette pas du tout. On m'avait un peu mise en garde sur peut-être les haters. Attention, tu sais, sur Internet, les gens, ils se permettent un petit peu tout. Tu risques d'être insulté, tu risques de ci, tu risques de ça. J'ai pas eu. J'ai eu que de la bienveillance, que de la gentillesse. Bah oui, parce qu'en fait, la communauté de PMA est une communauté très, très solidaire, très bienveillante, en général. On est soudés entre nous, on se soutient beaucoup, on se console. Voilà, moi je reçois des messages, merci pour tes vidéos, je viens de recevoir mes résultats, ça a pas marché, mais j'ai vu ta vidéo, ça m'a refait ma journée. Moi c'est ça qui me fait du bien, ouais, ça me porte. Ouais, c'est le fait que par le rire, on arrive à faire du bien à des filles qui pleurent beaucoup, parce qu'on pleure beaucoup. Moi je rigole beaucoup dans mes vidéos, mais je suis comme tout le monde, je suis un être humain, je pleure, Mais je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort pendant X semaines. Je pleure un bon coup et je rebondis dès le lendemain. Dès le lendemain, c'est fini. Je suis passée à autre chose. J'ai mon prochain objectif en vue. Ça a pas marché. J'ai mes règles. Déjà, qu'est-ce que je peux faire là? Je peux boire un coup, je peux fumer une clope. Ça va me détendre. Je peux retourner un peu dans ma vie normale. Je peux aller au sport dès lundi. Et je bascule sur un autre objectif en me disant, ben, on verra au prochain rendez-vous ce qui se passera. Donc voilà. Après, cet accident hémorragie là, c'est, je veux surtout pas faire peur aux filles, surtout qui écoutent le podcast, parce que ça arrive peut-être une fois sur un million. C'est-à-dire que quand j'ai dit que je faisais une hémorragie, l'anesthésiste ne me croyait pas, tellement que c'est impossible. Donc ne soyez pas flippés devant cet examen. Voilà, moi ça m'est arrivé, j'ai rempli les quotas pour tout le monde. Vous inquiétez pas, ça, c'est bon. C'était moi, la une sur un million, c'était moi. Donc vous pouvez y aller tranquille.
Mais alors, du coup, ils t'ont trouvé l'endométriose dans la trompe ?
Oui, un peu d'endométriose dans l'utérus, léger. Un petit peu la trompe gauche qui était un petit peu, petites adhérences, c'était pas nickel, nickel. Je suis sortie de là 2 litres de sang en moins, mais un utérus tout propre. Et ben du coup, on s'est dit, on va partir sur une deuxième FIV en étant plus sûre du résultat, où elle n'a pas donné grand-chose, cette deuxième FIV. Et là, on va devoir enchaîner sur une matrice lab.
D'accord.
Puisque la matrice lab, donc je rappelle ce que c'est une biopsie de l'endomètre qu'on envoie dans un laboratoire spécial et qui va étudier s'il y a des espèces de cellules anticorps, un petit peu, qui rejetteraient l'embryon ou qui empêcherait l'anidation de l'embryon. Tous les centres ne le font pas parce que c'est une technique qui est assez nouvelle. C'est une technique qui coûte cher et qui n'est pas remboursée. Il y en a pour à peu près 500 euros. J'ai une de mes abonnées d'ailleurs qui a dû en faire 2 à 3 semaines d'intervalle, donc 1000 euros. Mais pour elle, ça a été très salvateur parce que du coup, je crois qu'ils ont trouvé effectivement un problème et elle a un traitement pour équilibrer ça. Ce qui fait que là, elle met énormément d'espoir sur son prochain transfert qu'elle a eu, là, je crois, il y a quelques jours. Donc, elle met tout, elle met toutes ses billes là-dessus. Elle se dit, là, ça va fonctionner puisque ils ont enfin trouvé la raison pour laquelle ça ne s'accrochait pas. Donc, nous, je pense qu'on va passer par cette case-là avant d'entamer la FIV 3 pour être sûr que tous les compteurs sont au bon niveau, quoi.
Donc, c'est la prochaine étape.
Oui, la prochaine étape, c'est la matrice lab. J'ai rendez-vous en visio consultation avec ma gynécologue le 30 mars. Donc j'en saurai
super,
plus.
Ah super,
il
continue en visio, c'est
oui,
super ça.
Oui. Bah oui, puisque en plus je devais avoir rendez-vous avec elle il y a quelques semaines, j'ai dû annuler parce que mon chien était malade. C'est tout bête mais mon toutou qui est malade, bah moi j'annule le rendez-vous, c'est pas grave quoi. J'ai eu un rendez-vous qui était programmé pour le 1er avril et elle m'a contacté pour l'avancer au 30 mars en visio. Donc j'en saurai plus le 30 mars, mais logiquement on part là-dessus. On était resté là-dessus à la dernière consultation, donc normalement on part là-dessus.
Très bien. Bon, bah écoute, on te souhaite en tout cas de trouver des réponses et puis bien entendu que la prochaine soit la bonne. Est-ce que il y a quelque chose que t'aimerais ajouter, quelque chose que t'aimerais partager avec la communauté avant qu'on se dise au revoir ?
C'est juste que je vous aime toutes les galériennes, toutes celles qui sont dans mon cas. je vous aime toutes. Je vous fais des gros bisous. J'aimerais bien aussi qu'on m'envoie des grossesses. N'hésitez pas, les filles. Hein. Les gens, les filles, les couples ont honte après de dire qu'ils ont réussi. C'est pas normal.
C'est vrai.
Ne vous cachez pas. C'est une grosse source d'espoir pour nous.
C'est ça, partagez vos joies.
Voilà. Moi, quand je reçois des messages, j'en reçois pas assez, je trouve. Je reçois plus de « ça n'a pas fonctionné ». Et puis après, je vais recevoir, au fait, je te l'ai pas dit, mais je suis enceinte depuis 3 mois. J'ai pas osé. Mais non, mais il faut. J'aimerais repartager, moi, ça derrière, en story, faire des... Ça donne de l'espoir, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas balancer son bonheur à la figure de l'autre. C'est justement le contraire. Voilà, si j'ai un message à faire passer, c'est celui-là. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire « j'ai eu les résultats ». Ça a marché. J'ai besoin aussi d'avoir ça parce que je suis quand même pas mal une éponge. Du coup, je reçois beaucoup de messages de filles qui sont désespérées. Je réponds à tout le monde. Des fois, j'y suis jusqu'à minuit dans mon lit, mais je réponds à tout le monde. Des fois, je reçois des messages de détresse. Ça me fait beaucoup de peine. J'aimerais aussi recevoir des messages de bonnes nouvelles.
Mais écoute, très bien, le message est passé et je suis tout à fait d'accord avec toi. Partageons aussi les bonnes nouvelles. Tournons-nous en fait. Voilà, enfin c'est comme tu dis, c'est un grand message d'espoir. On est dans ces parcours, bah voilà, parce que c'est un peu le but ultime. Donc bah montrons que ça peut marcher, quoi. C'est hyper important aussi.
Voilà, c'est ça. Quand ça a marché pour l'une, on se dit ça marchera pour moi aussi. Donc oui, il faut.
Bon, très bien. Écoute, Gracie, je te dis un immense merci d'avoir passé cette petite heure avec moi.
Bah merci à toi.
J'aurai beaucoup de plaisir à continuer donc à te suivre sur Instagram. C'est Tata Gracie, c'est ça?
Oui, c'est ça. Facebook aussi, hein. J'ai ma page sur Facebook.
Ah, sur Facebook aussi. Bon, bah super, bien. J'aurai donc beaucoup de plaisir à continuer à te suivre. Et bah, écoute, je te souhaite une excellente continuation.
Merci, toi aussi.
Je te souhaite un confinement aussi court que possible.
Oui, bah toi aussi. Prends bien soin de toi.
Merci, et puis je te dis à très bientôt.
Oui, à bientôt.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram Alors c'est pour bientôt podcast ou sur le site internet alorscestpourbientotpodcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.